la tête de ce projet, l'espace LAC dans les réunions ICANN. Pour tous ceux qui parlent espagnol, peuvent continuer. Nous avons des écouteurs et des interprètes. Et nous allons présenter les invités spéciaux que nous avons et ces gens qui ont accepté notre invitation. Puisque une autre personne dit que les gens ont très peu de temps à nous consacrer, nous avons eu deux invitations aujourd'hui parce que notre idée d'espace LAC, LAC, puisque nous ne sommes pas dans notre région, le but c'est de parler avec des gens d'une autre région pour voir ce qu'ils font, quelles sont les opportunités. Quelles sont les opportunités d'affaires et s'ils peuvent faire des affaires dans notre région, comment ils peuvent trouver des informations sur qui est là, qui peut faire ça et ainsi de suite. Donc c'est l'idée. Donc nous avons ici Edmond Chang qui est de Point Asia, Asia, parce qu'ils ont très peu de temps. Je vais lui passer la parole tout de suite et ensuite je passerai la parole à Edmond. Merci de m'avoir reçu. Je n'ai pas beaucoup de temps à vous consacrer, mais quand je vois ce groupe, je vois que nous avons inspiré notre groupe d'Asie-Pacifique de se rassembler. C'est une inspiration pour nous. La raison pour laquelle je dois partir de bonne heure, c'est parce que notre espace Asie-Pacifique a lieu en ce moment, presque en même moment, à 17h. Donc, je dois y aller. Avec le peu de temps que j'ai, je vais commencer en donnant un petit peu une introduction sur ce que fait Point Asia. Et certaines des choses que nous faisons au niveau régional et peut-être ouvrir, entendre certaines les questions qui sont. Nous appelons nous-mêmes un nouveau GTLD alors que malgré que nous faisions partie des premiers, plus ou moins des premiers tours, nous avons commencé en 2007-2008. Cela fait maintenant 6 ans que nous sommes opérationnels. Point Asia, en fait, est une OGN une organisation à but non lucratif. Depuis que nous avons commencé, nous avons des choses que nous soutenons, telles que un ordinateur, parent portable, par enfant, cette initiative à travers l'Asie. Donc, envoyer des ordinateurs portables dans les régions rurales d'Asie. Nous soutenons aussi des mouvements de créatifs à travers les Asies. Nous avons aussi des bourses avec notre programme développement.asia et aussi le ISIF. D'ailleurs, la cérémonie de récompense à ce sujet-là a eu lieu aujourd'hui durant cette réunion. Donc, c'est l'ISIF, Point Asia. C'est une bourse pour du développement social. Et avec d'autres partenaires, nous avons créé cela. Deux autres développements intéressants qui sont en cours, en dehors de développer Point Asia en soi, c'est de se rassembler avec les communautés différentes. Depuis 2010, si je me souviens bien, nous avons aidé les secrétariats Asie-Pacifique pour les IGF, les forums d'IGF régionaux. Et nous avons aussi soutenu des événements, blogs. Et une des choses que vous avez peut-être vu, si vous voyez un groupe d'étudiants universitaires avec des t-shirts verts durant cette réunion, c'est une initiative universitaire que nous soutenons avec la ICANN. Et c'est aussi une initiative qui s'appelle netmission.asia. Et donc, en termes de nos affaires, de nos affaires commerciales, notre expérience a été que depuis que nous avons démarré, je sais que .lat va être lancé. Quand je regarde le développement de notre .asia, au départ, tout venait d'Europe ou des États-Unis. Donc, après 3 ans de travail très dur, en communiquant avec tous les registraires en Asie, donc avec les bureaux d'enregistrement en Asie, nous avons maintenant changé les choses et nous avons plus de 60% des enregistrements qui viennent des régions. Et cela montre une croissance extraordinaire pour nous. Et ça fait partie du développement de .asia. Un développement dans l'industrie, dans les régions. Et nous sommes très heureux d'avoir pu soutenir cela. Et puis, une chose intéressante aussi, alors que nous continuons dans nos progrès, c'est de pouvoir rassembler une communauté Internet en Asie. Notre vision originale était de... Alors que nous sommes vraiment seulement un domaine de premier niveau, notre vision était de rassembler un esprit de collaboration de l'Internet dans d'autres domaines, dans d'autres industries à travers l'Asie. Nous sommes donc très excités de voir que depuis cette année, d'ailleurs, nous avons été élus, disons, en tant que secrétariat. Nous faisons office de secrétariat pour les récompenses des films. C'est un peu comme les Césars en Asie. Nous les soutenons à travers le site web depuis plusieurs années. Mais cette année, il y a un changement significatif puisque cela a été mené par le festival de films de Hong Kong. Mais depuis que nous participons, nous avons maintenant cet esprit de collaboration dans cette industrie et cette année, donc durant les récompenses qui vont avoir lieu jeudi, parce que moi je ne vais pas y participer parce que je serai ici au forum public, mais cette année cet événement est une collaboration entre le festival de films de Hong Kong et celui de Tokyo et celui de Busan en Corée, et c'est un peu le modèle que le .asia a exploité dans cette industrie. .asia en soi, nous sommes formés par les CCTLD dans la région. Nous avons 30 membres à travers l'Asie. Et nous prenons ce modèle dans les récompenses pour de films. Je pense que c'est un projet excitant et nous sommes dans le show business, mais je pense que c'est une division qui va amener cet esprit de collaboration de l'Internet et de la gouvernance de l'Internet dans la région elle-même, dans les régions elles-mêmes. Merci. Merci Edmond, dit la personne sur le panel. C'est important de travailler avec des jeunes. Ce sont des gens brillants, très intéressants. .asia a commandité les femmes, le groupe des femmes de DNS. Et vraiment, c'est un succès cette année. Merci beaucoup. Je passe la parole à, encore une fois, Edmond. Je suis désolée de ne pas avoir beaucoup de temps. Edmond, maintenant, l'autre personne. Je m'appelle Yudo, je viens d'Indonésie, je suis membre d'un non-domaine et on m'a demandé de parler, quelqu'un d'autre devait parler dans ce forum, mais il doit aller au CCNSO. Nous allons parler du paysage de nom de domaine en Indonésie. J'ai fait cela hier. Quand vous regardez les utilisateurs de l'Internet dans le monde, en fait, nous avons pris ça sur Point ID. En Asie, nous avons 44% des utilisateurs d'Internet dans le monde. Est-ce que vous pourrez avoir la prochaine diapo, s'il vous plaît? Donc, vous voyez que l'Amérique du Sud et les Caraïbes comptent pour 10,4%. Je ne sais pas si vous avez déjà... Vous avez des domaines de premier niveau tels que nous avec .asia. Nous allons bientôt avoir un forum pour tous. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Si vous regardez ce tableau, vous voyez que l'Asie a énormément d'utilisateurs de l'Internet. La prochaine diapo pour aller assez vite. Prochaine diapo. Nous avons plus de 1 milliard d'utilisateurs et l'Amérique latine et les Caraïbes, vous avez encore du travail à faire, comme vous voyez. Prochaine diapo. Si vous voyez le taux de pénétration de l'Internet, malgré que nous ayons des bons noms... Oh, la diapo précédente. Alors que nous avons de bons chiffres au niveau des utilisateurs de l'Internet, nous ne sommes pas très bons en ce qui s'agit du taux de pénétration de l'Internet. Vous voyez que l'Asie, nous avons seulement 27,4% de taux de pénétration d'Internet. C'est plus bas que pour vous en Amérique latine et aux Caraïbes. Vous, à LAC, vous avez plus de 40% de taux de pénétration de l'Internet. Donc, voilà, c'est l'Asie. Voyez la diapositive. Sobit, qui regroupe la Mongolie, l'Indonésie, l'Arabie Saoudite. Et donc, nous avons des tonnes d'îles. Nous n'avons même pas de nom pour toutes ces îles. Nous avons plus de 500 langues locales en Indonésie, par exemple. Nous avons plus de 500 municipalités. Voyez la liste. Voici le tableau pour 2012, par exemple. La Chine, par exemple, c'est le pays le plus grand, comme vous savez, en Asie. Et avec l'Inde et Japon ensuite, et moi, mon pays, l'Indonésie, nous sommes en quatrième position. En ce moment, nous avons plus de 70 millions d'utilisateurs de l'Internet. Voilà, ce que vous voyez là, ce sont les chiffres pour 2012. Je ne sais pas si vous avez la même expérience, mais ce qui s'est passé en 2007, nous avions à l'époque 2 millions d'utilisateurs et en un an, nous sommes passés à 20 millions. Donc, plus de la moitié, parce que notre ministre des IP, des fournisseurs d'Internet de notre pays, a baissé le prix de l'Internet. Donc, les gens... puisse se permettre d'avoir le service. Oui, donc, nous pouvons avoir 6 mégabits de connexion pour moins de... Excusez-moi, je n'ai pas entendu le prix en dollars. Voilà les statistiques sur la diapositive. Corée, plus d'un million. Le Japon aussi. En Chine, nous parlions en milliards avant, excusez-moi, 7,8 millions. L'Inde, 1,7 million. Iran, plus de 500 000. Singapour ici, donc 150 000. 155 000. Hong Kong, nous sommes à 166 000. Malaisie, 201 000. Indonésie, nous en sommes à 111 000. Comme vous voyez, nous avons une division numérique. D'un côté, nous avons la Chine qui a plus de 540 millions d'utilisateurs de l'Internet. De l'autre côté, nous avons Timor-Leste, qui faisait partie de l'Indonésie auparavant, qui en est seulement à 10 000 utilisateurs. Vous voyez qu'il y a une division numérique. En termes de pénétration, la Corée du Sud, le meilleur gouvernement du monde, sont à 82,5% de pénétration. Et en Timor-Leste, nous sommes à 0,9% et à Myanmar, nous en sommes à 1%. Et vous voyez, vous avez la division numérique en Amérique latine et dans les Caraïbes aussi. Et vous voyez qu'il y a la censure aussi, puisque vous savez qu'à Facebook, vous n'avez pas l'accès à Facebook en Chine, quoique à Cannes le peut, puisque la dernière fois que nous étions à Pékin, nous pouvions accéder à Facebook.
Vas-y.
So have... Vous pouvez également avoir des amendes. D'un côté, en Corée, au Japon, il y a leur propre gestion des registres. De l'autre côté, il y a des endroits où il y a des registres qui sont gérés en externe parce qu'ils n'ont pas la capacité pour le faire en interne. Également des différences entre l'Indonésie, la Corée et Hong Kong. Corée et Hong Kong, des pays mûrs en termes du DRP. En Indonésie, on vient de lancer la politique UDRP, donc on en est au début, mais on essaie d'adopter la politique et les mécanismes ICANN. S'il y a un problème, il suffit de s'adresser à l'OMPI. S'il y a un UDRP, alors ce n'est pas le problème des opérateurs de registre, mais des bureaux d'enregistrement. Ensuite, la disponibilité pour les entités externes, savoir si l'on doit permettre aux entités externes d'avoir votre nom de domaine. D'abord, on a .tv avec 20 millions de noms de domaine. Donc, c'est l'un des principaux avec l'entité allemande et britannique. Également, .tk. Domaine gratuit pour tout le monde. Et de l'autre côté, il y a également le point MY et point ID. Donc si vous voulez avoir des noms de domaine ID, alors il faut remplir certaines conditions. Il faut envoyer votre carte d'identité, les entités locales si vous êtes une entreprise nationale. Envoyer votre nom d'URSSAF. Et... nous ne sommes pas une agence fiscale ni un ministère, donc ce n'est pas à nous de vérifier tout ça. Mais s'il se produit quelque chose sur le site web, s'il y a un problème, s'il y a une plainte, alors on peut savoir à qui on a affaire. C'est un petit peu l'idée derrière cela. Et la Malaisie, avec .my, fait la même chose. En Indonésie, à l'heure actuelle, on a co.id, biz.id, web.id, etc. pour les villages et les zones rurales. Et nous nous préoccupons également des zones rurales. Si vous demandez aux grands fournisseurs de services Internet, ce n'est pas un bon modèle pour eux. Ils s'intéressent uniquement au modèle commercial urbain. L'autre modèle est géré par une association en Indonésie, l'autre par le ministère des technologies et de l'information, et le dernier par le ministère de la Défense. Comment faisons-nous face aux fossés numériques ? Je ne sais pas si c'est le cas en Amérique latine ou pas, mais vous voyez ici un café mobile Internet à l'écran. Nous envoyons ce type de camion dans les zones suburbaines. Vous y trouverez 6 ordinateurs connectés à Internet. Et nous avons également cette moto à 4 roues. L'idée est simple. Nous leur demandons d'aller de village en village. Donc ces villages, villages de pêcheurs, petits villages de pêcheurs, petits villages ruraux, etc., n'ont pas Internet. Donc bien entendu, il faut que vous... ayez votre propre interprète parce que certains ne parlent pas anglais. Et pour les villes ou les zones plus grandes, on a cet instrument-là. Il s'agit d'un café Internet sur bateau ou sur l'eau. Donc, pour faire connaître l'Internet aux villageois, voilà le site web de ces villages en Indonésie qui ont souscrit à ce type d'idées afin de faire connaître leur village sur Internet. Ça y est, vous avez pris vos photos. Voilà un petit peu de pub. Nous avons également une coopération avec Google pour avoir des applications, domaines gratuits fournis par Google. Je crois que sur ce, j'en ai fini. Sur cette introduction sur .id. Si vous avez des questions, vous avez mon email à l'écran. N'hésitez pas. Merci. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir sur ce qui a été dit? Parce qu'au Brésil, nous avons également Symbos dans la zone Amazon. C'est la seule façon de travailler dans cette zone, c'est d'avoir ce type de camion qui circule à tout moment, constamment. C'est la même idée, en fait, hein. Et Connie, je crois que c'est elle qui va lancer... Là, c'est un petit peu l'idée de la région. C'est un peu ce qui nous attend pour l'avenir. Et Tony va en dire un peu plus à ce sujet. Veuillez vous présenter, s'il vous plaît. Oui, je m'appelle Karel de Trinité et Tobago. Boursier, deux questions. Très rapide. La présentation a été si rapide, je voudrais savoir si elle est dispo en ligne. Deuxièmement, j'aimerais vous féliciter pour le travail que vous avez fait à Trinité et Tobago. Nous avons eu une expérience similaire par rapport à la mise en œuvre de ce type de centre. Des centres où vous pouvez avoir accès dans des zones où il n'y a pas d'Internet, où il y a très peu d'Internet, vous pouvez avoir accès à Internet. Voilà le commentaire que je voulais faire. Oui, Maggie. Marie-Laure, le mineur, au micro. Très intéressante cette présentation. Merci. J'aimerais également avoir accès à cette présentation, si elle est disponible en ligne, pour la revoir. Une chose... c'est de fournir une plateforme pour que les gens aient accès à Internet dans des zones si isolées. Et l'autre, c'est leur réaction, leur réponse une fois que vous êtes là. C'est un ensemble, en fait. Pouvez-vous nous dire quelle a été la réaction des gens? Est-ce qu'ils ont posé des questions? Est-ce qu'ils l'utilisent, effectivement, cette connexion Internet? Qu'est-ce qu'ils font? Comment réagissent-ils? Merci. Concernant la présentation, je l'ai envoyée à la personne de contact, donc vous pourrez la lui demander. Deuxièmement, qui a le plus profité? C'est le gouvernement. Il s'agit d'une initiative qui veut que d'ici 2015, l'objectif est que 50% de nos concitoyens aient accès à Internet. Ce qui s'est passé en Indonésie, c'est qu'aujourd'hui, si vous ne savez pas comment utiliser Internet, vous ne pouvez pas être fonctionnaire, vous ne pouvez pas vous inscrire à l'école secondaire ou à l'université. Et notre gouvernement a mis en place une nouvelle réglementation, à savoir qu'en 2015, il y aura des appels d'offres qui seront électroniques dans au moins deux municipalités, dans les capitales des municipalités. Pour les villages, on utilise ce type de plateforme. Comment ont-ils réagi? Très simple. Si on leur présentait cela en anglais, au début, ils étaient intéressés, mais au bout d'une ou deux semaines, leur intérêt disparaissait. Donc, dans les petits villages de pêcheurs, on leur montrait là où ils se trouvaient à l'aide d'un GPS et tout ce type de choses. Donc, le contenu local est très important dans ce type d'initiative. Et je sais que l'année dernière, je me suis rendue en Inde. Ils ont ce même type d'initiative. Donc, le contenu est important. Et je vous le disais, en Inde, il y a une initiative similaire. Merci. Une autre question, une autre intervention? Merci. Il y a un commentaire sur le chat. Angela demande, est-ce que ce modèle que vous venez de présenter peut être mis en œuvre en Amérique latine et dans les Caraïbes? Si vous voulez y répondre, oui, pourquoi pas? Oui, oui, pourquoi pas? L'idée, et je pense que la question, est de savoir s'ils peuvent partager avec vous certaines informations sur la meilleure façon d'y parvenir. Parce que, bien entendu, on peut dire que d'une manière théorique, on peut le mettre en œuvre. Mais ensuite, sur le terrain, il y a des problèmes qui se posent. Donc, je pense que la question est de savoir s'ils peuvent partager des informations avec vous pour savoir comment s'y prendre. Donc, si vous pouvez à nouveau nous communiquer votre mail, hein, il figure ici à l'écran. Donc, si vous voulez prendre contact avec lui, pour avoir une meilleure interaction entre ces régions, n'hésitez pas à le contacter.
OK, thank you for coming, Edu.
Merci d'être venu. Il doit également nous quitter parce qu'il a une autre réunion. Je donne à présent la parole à Rodrigo. Merci. Veuillez m'excuser parce qu'on a commencé l'ordre du jour à l'envers, mais on était en train de profiter du fait que l'on avait ces invités spéciaux qui nous accompagnaient et qui pouvaient nous faire part de leur expérience en Asie. Alors, le point suivant à l'ordre du jour, c'est de pouvoir parler de certaines expériences qui ont lieu en Amérique latine, du point de vue commercial, sur le DNS. Nous accompagne Roger Castillo, de l'équipe NIC Mexique, qui va nous présenter la stratégie commerciale de NIC Mexique. Bonjour à tous. Je vais vous parler en espagnol puisqu'il s'agit d'une réunion de la région Amérique latine-Caraïbe. Si ça n'est pas votre langue maternelle, vous pouvez utiliser les écouteurs et l'interprétation simultanée. Je voulais partager avec vous notre expérience dans le développement de la stratégie commerciale de NIC Mexique. Un petit peu d'histoire. En 1989, l'entreprise mère, la maison mère de NIC Mexique, est chargée de mettre en place le ccTLD.mx et établir la connexion Internet par le biais d'un travail avec une université de Texas. On obtient la base de données et l'administration des noms de domaine et le WHOIS. on crée formellement le Network Information Center du Mexique, chargé d'administrer le registre et l'assignation des noms de domaines sur Internet. Il est chargé de poursuivre la mise en œuvre de l'infrastructure et nous avons plus de 300 000 clients en 2003. Actuellement, nous avons 700 000 noms de domaines environ et nous espérons pouvoir continuer à croître. Comme cela figure ici à l'écran, quelques statistiques. Chaque jour, on traite 700 millions de consultations. Et ces consultations sont soutenues par Anycast, qui sont distribuées dans au moins 8 localités géographiques. En suivant le développement d'Internet et les tendances de l'industrie, on a été obligé de diviser le Mexique en deux, d'abord. Donc, on a créé deux unités commerciales autour de .mx comme une stratégie de croissance et de durabilité financière, parce qu'on s'était rendu compte que on dépensait beaucoup de ressources pour essayer de répondre à des clients qui étaient différents les uns des autres, avec les mêmes règles du jeu politique et avec une même réglementation. Donc, nous avons adopté la stratégie du modèle register, en offrant au client le mécanisme dont il avait besoin. De là est née l'idée du distributeur du nom de domaine, celui qui enregistrait les noms de domaine pour un développeur de page web ou quelqu'un qui offrait un accès à Internet pour un ISPP petit. Et là, donc, on offrait des noms de domaine pour ses clients. Et ça, on le faisait par l'intermédiaire d'un mécanisme dans le système qui leur permettait d'administrer un peu plus facilement un portefeuille moyen de noms de domaine par rapport à un portefeuille qu'il administrait pour ses propres clients. Et cela nous permettait... Le fait d'adopter ce modèle nous a permis de simplifier les processus et de nous concentrer sur les clients, chaque client individuellement et de manière spécifique. Et ce que nous avons établi comme ligne directrice dans nos relations avec les clients, c'était que nous n'allions pas entrer en concurrence avec les autres bureaux d'enregistrement qui existaient sur le marché, que nous n'avons jamais offert les services que offrent, comme le hosting, le développement des pages web. On continue de ne pas l'offrir. Nous n'avons pas de plateforme pour la revente. Et nous n'imposons pas de tarifs au public. En effet, notre register, c'est le plus cher d'entre tous.
Ce que nous essayons de faire, c'est de faire une différence dans la qualité. Et cela est bon pour le public. Nous nous reste plus de 50% du marché du nom de domaine dans le domaine .mx. Les modèles de bureaux d'opérateurs de registre, un taux spécial pour les bureaux d'enregistrement, cela leur permet d'avoir un rabais au niveau du volume. S'ils viennent nous voir, ils peuvent nous demander des taux spéciaux pour pouvoir développer des campagnes spéciales pour promouvoir le développement. Donc, ils s'engagent à maintenir un volume d'enregistrement, un certain volume d'enregistrement avec donc des promotions et ils ont Ils ont ainsi accès à un coût préférentiel. Donc, maintenant, depuis un certain temps, nous sommes trouvés dans le besoin. Nous devions diversifier nos sources de revenus et nous ne voulions pas dépendre complètement de .mx. NIC Mexico est privé complètement. Heureusement, nous n'avons pas eu de problème avec le gouvernement mexicain, mais nous avons entendu dire qu'il y avait des situations où le gouvernement avait pris contrôle des CCTLD. Donc, notre stratégie de NIC Mexico est donc de diversifier les sources de revenus pour ne pas avoir à dépendre complètement de .mx. Cela nous permet aussi de tirer profit de l'infrastructure existante au maximum et de compartimentaliser tout ce que nous avons obtenu avec la gestion de .mx dans d'autres projets. Nous offrons aussi de façon libre au public. Nous avons approché des CTTLD de la région et nous avons pu trouver un partenariat avec le projet .lat et met en place une proposition dont on parlait tout à l'heure. Nous pouvons aussi tirer profit de l'infrastructure pour accéder à d'autres services. Nous travaillons maintenant dans le e-billing, la facturation donc en ligne. Nous pensons que c'est très similaire au commerce des noms de domaine. Quand nous avons fait la présentation sur ce projet au niveau interne, nous avons mis en place un diagramme et nous avons appliqué ça au modèle de facturation en ligne. La structure des opérations opérationnelles est très similaire et c'est compatible avec le modèle de nom de domaine. Bonne disponibilité, une bonne expérience dans les protocoles d'Internet, dans les protocoles de cryptage et avec. Donc, pour résumer, je voudrais vous montrer le développement, l'évolution de NIC Mexico. C'était une compagnie monolithique qui faisait tout. Nous avions l'administration du DNS, des adresses IP au Mexique. Nous servions les utilisateurs finaux, les petits distributeurs, et cela dans la même boîte. Et maintenant, nous pouvons identifier nos clients qui sont différents. Et nous pouvons maintenant faire une division en trois entités différentes au sein de la compagnie. Nous avons le logo noir, qui est donc le registre. Celui en blanc est le bureau d'enregistrement qui sert les utilisateurs. Et ensuite, nous avons celui qui est responsable des adresses IP. Et quand il s'agit du développement de la compagnie et de son progrès, nous avons pu diversifier les activités économiques. Et naturellement, nous avons vu NIC Mexico en tant qu'une société qui donnait du soutien aux trois divisions. Nous avons fait une évolution de la marque, un remarquage pour pouvoir comprendre et englober toutes les unités de l'entreprise. Nous avons eu accès à de nouvelles opportunités et là, nous avons pu obtenir l'accord d'opérer le registre back-end de .lat. C'est une unité commerciale différente. Mais ainsi, avec la diversification de nos activités, nous avons vu que tout cela était associé à .mx. Et c'est là où nous avons inclus les bureaux d'enregistrement, nous avons changé la marque, et c'est là où rentre en jeu. Et maintenant, nous pouvons amener des noms génériques de domaine dans nos bureaux d'enregistrement, et cela en coordination avec .lat. Donc, nous pouvons maintenant apporter .lat à nos bureaux d'enregistrement. Cela nous permet aussi d'avoir une meilleure flexibilité lorsque nous pouvons apporter nouvelles options au public et au niveau du nom de domaine. Ça aurait été difficile auparavant d'avoir l'accès. Maintenant, nous gardons donc les bases acquises sans faire de trop de changements. Nous n'offrons pas toujours les mêmes services que nos bureaux nos distributeurs. Nous nous focalisons sur les activités du nom de domaine. Mais nous avons aussi besoin de continuer à parler de la facturation en ligne, cette division qui aussi un modèle, un élément du domaine registre et bureau d'enregistrement. Cela permet ce que nous appelons une validation électronique de reçus fiscaux. Cela peut servir les utilisateurs finaux et cela fournit des services donc de facturation en ligne aux utilisateurs, aux utilisateurs de marque. Cette évolution nous a amené sur ce que j'appelle, dans mes 12 années avec ce service, j'ai vu beaucoup d'évolutions. Nous avons gagné beaucoup d'expérience avec cela. Nous sommes disponibles pour partager ces informations avec vous et nous pouvons collaborer avec vous si besoin. Y a-t-il des questions, la modératrice, y a-t-il des questions? Andrés Piazza, je pense qu'il y a de la participation en ligne. Tout à l'heure, on expliquait le domaine IP. Certaines personnes me demandaient est-ce que Mexique gère les adresses IP? Est-ce que vous pouvez expliquer? Roger, au micro. Oui, vous en savez certainement plus que moi là-dessus. Andrés, oui, je ne veux pas vous voler l'objectif de votre présentation. Je voudrais juste passer un peu de temps là-dessus. Pourquoi est-ce que Mexico a un registre d'adresse IP? Et c'est comme ça que ça se passe. Erin était donc le registre de toutes les adresses IP pour toutes les Amériques. Et au Brésil, au Mexique, il y avait des adresses IP spécifiques. Ils avaient donc les membres, ce qu'ils appelaient leurs membres. Et quand ils ont laissé Erin, ça c'est pas très clair cette partie d'ailleurs pour moi, mais peut-être quelqu'un peut en parler, quelqu'un d'autre peut en parler. Je ne sais pas si c'était direct à partir de Liana. Donc, l'ACNIC est un projet qui vient de la communauté. Quand nous avons créé la 4e région il y a une quinzaine d'années, Mexique et le Brésil étaient deux entités qui étaient rassemblées avec l'ACNIC. Et maintenant, il y a 3000 et quelques membres. Tous ces CTLD sont des membres. Donc, NIC Mexico, NIC Brésil a donc poussé la création d'un RER et nous en avons créé un pour l'Amérique latine et les Caraïbes. Et la structure pour le Brésil et le Mexique est différente des autres. Il y a des registres régionaux et nationaux. Et ceux de l'ACNIC sont différents de Mexique et du Brésil. Et ceux-là se préoccupent des opérations, comme Roger le disait. Les politiques sont les mêmes de celles de l'ACNIC et les règlements des opérations sont les mêmes. Il y a des politiques opérationnelles et les opérations, il y a deux choses différentes. Et donc, la surveillance, la supervision de tout ça est une grande discussion. Le Mexique a les opérations et les politiques sont faites par les opérations de l'ACNIC et pas par le personnel. Je pense que c'est comme ça que je peux résumer la question que certaines personnes m'ont posée dans les chatrooms. Peut-être, Roger, vous voulez continuer? En ce qui s'agit des IP, il n'y a rien à rajouter, dit Roger. Moi, je suis du Brésil. Très peu. Nous sommes en train de commencer. En ce qui s'agit des les revenus, c'est un très petit pourcentage en comparaison des noms de domaines. La personne dans l'audience prend la parole, qui a pris la parole. Donc, encore une fois, je suis désolée, je parle en portugais. Je ne sais pas si c'est la bonne façon. Le développement de l'Internet, éventuellement, va demander une stabilisation en ce qui s'agit de la facturation en ligne. Est-ce que c'est un service fourni aux compagnies? Je ne comprends pas. Je n'ai pas vraiment bien compris cela. Au Mexique, la facturation en ligne comprend deux entités qui sont celles qui fournissent ces services. C'est une agence de régulatoire et une agence de dérégulation fiscale. Et ces agences supervisent les compagnies qui supervisent les facturations. Il y a d'autres agences qui dépendent de ces agences. Les utilisateurs peuvent employer des services de facturation et eux-mêmes doivent embaucher des agences de vérification. Dans certains cas, c'est la même organisation, mais qui a deux rôles différents. Par exemple, pour Munich Mexico, nous allons mettre en place ces deux choses. Nous aurons l'agence de certification et l'agence d'établissement de l'agence. Excusez-moi. Les éléments de certification. Est-ce que vous pensez que tout cela va être compatible avec les factures qui viendront d'autres pays? Parce qu'au Brésil, nous avons un problème avec la compatibilité avec le Mexique et d'autres pays en Amérique latine, Amérique du Sud. Donc, ces certificats électroniques seront reconnus par d'autres pays. Je pense à ça parce que ça pourrait être un problème dans l'avenir. Vanda, au micro, nous pensons à l'Amérique latine, les compagnies en Amérique latine. Il y aurait des agences de facturation différentes. Nous avons de la facturation numérique. Nous avons beaucoup d'agences. Il y a aussi une certification centrale correspond au groupe brésilien seulement, uniquement le groupe brésilien. Donc, si nous voulons opérer, il arrive que les certificats ne sont pas compatibles. Si nous voulons avoir échangé des factures pour différents services, par exemple, parce que nous faisons partie du marché Mercosur, c'est pour ça que nous avons ce problème. Je pense que c'est une bonne question. Parce que en Amérique latine, par exemple, si on pense à l'avenir, c'est très important puisqu'il y aura des services qui seront fournis par d'autres pays et dans la région andine, par exemple. Je pense que il sera donc très intéressant d'avoir quelque chose qui sera plus ouvert, quelque chose qui sera plus compatible avec entre pays. Encore une fois, un membre de l'audience prend la parole. C'est un défi. Je pense que éventuellement, nous aurons quelque chose qui sera compatible à travers toute l'Amérique latine. Encore Roger au micro. Ce serait intéressant de voir que si nous pourrions harmoniser donc les critères, parce que ce qui se passe maintenant, c'est que chaque pays a ses propres règlements et ses propres. Vanda prend la parole. Oui, ce sont des protocoles. Roger, oui, ce sont des protocoles. Vanda, nous devrions penser faire quelque chose qui serait pour toute l'Amérique latine. Il y a du travail donc à faire. Merci beaucoup. Très intéressant. Y a-t-il quelque chose à rajouter? Rodrigo Lapara, oui, merci Vanda. Nous avons une question à distance de la part de Juan Manuel. Quel pourcentage de épis et de domaines est-ce que ont les utilisateurs de l'Internet vis-à-vis contre celles que qu'ont les entreprises? Roger, j'ai peur de ne pas connaître les chiffres. Est-ce que vous connaissez les chiffres? Enfin, quel est le pourcentage compagnie par rapport aux particuliers? Je pense que j'ai cette information parce que lorsqu'un nom de domaine est, il y a toujours une trace physique. Ben non, pas. Mais c'est toujours fait par une personne physique, mais je n'ai pas les data, les données. Rodrigo, oui, nous obtiendrons cette information et nous vous la donnerons plus tard. Vanda, y a-t-il quelqu'un d'autre? Sinon, nous pouvons passer à la prochaine présentation. Rodrigo, de la Para, oui, bien. Il y a deux choses que nous devrions deux sujets à couvrir, puisque nous sommes là. Que pourrions-nous faire pour améliorer notre place dans la réunion ICANN? Je voudrais avoir du suivi. Je voudrais aussi, pendant les dernières minutes, de partager des mises à jour sur notre stratégie. Et avant ça, puisque notre approche, notre focalisation est commerciale, il y a deux personnes qui pourraient nous aider ici. Tony, peut-être vous pouvez nous parler de nos activités de point à l'État, LAT, et les activités dans votre groupe constitutif, unité constitutive, qui pourraient nous être utiles. Et peut-être pouvez-vous aussi partager des informations avec nous sur les activités dans lesquelles vous êtes inclus au sein du GENESO. Y a-t-il quelqu'un qui veut commencer?
Antes que nada.
Alors, où puis-je commencer?
Je comprends.
Alors, la première préoccupation ici au sein de l'AG, c'est celui des bureaux d'enregistrement. Est-ce que je peux en parler, Rodrigo? Ce qu'on fait, nous, en Argentine, c'est qu'on est en train de procéder à une expérience qui n'a pas été couronnée de succès pour l'instant, de nous enregistrer comme bureau d'enregistrement au sein de l'ICANN. Ça n'est pas une chose simple. Je vais vous donner quelques informations pour que vous vous en rendiez compte. On parle toujours du besoin d'étendre les activités et les opportunités de l'ICANN aux pays en développement. Et s'il est vrai que je partage l'avis selon lequel c'est important de le faire, il n'en demeure pas moins que c'est difficile de le faire. Et je vais vous résumer rapidement ce à quoi nous avons été confrontés. D'abord, il y a une entrave économique significative, parce qu'il faut payer un droit d'inscription de $500,000, un frais de $4,000 qu'on doit payer chaque année. Il faut avoir, ou plutôt apporter la garantie de pouvoir accéder à un fonds de $70,000 dans une banque et avoir une assurance de risque commercial à hauteur de $500,000 pour soutenir le projet qu'on veut lancer. Outre cela, il y a un frais variable qui n'est pas spécifié. Et chaque trimestre, il y a un frais à payer qui est un pourcentage du volume du bureau d'enregistrement par rapport aux flux totaux. Et ça, j'ai même pas pu le calculer. Donc, pour chaque nom de domaine vendu, un pourcentage de cette valeur doit être reversé à l'ICANN à titre de commission. Je ne sais pas bien comment le définir. Et c'est relativement important. Si on pense que en Amérique latine, notre attente, ça n'est pas notre perspective, ça n'est pas de vendre 1 million de noms de domaine en un mois. On a l'ambition d'être une PME, mais le chemin pour y parvenir est semé d'embûches. Et l'autre pierre d'achoppement, c'est qu'il y a un formulaire très long qu'il faut compléter et qui a à voir avec la partie technique où on demande au candidat de décrire l'architecture de son système. Donc, il faut fournir une série d'informations techniques. Le candidat doit les fournir à l'ICANN, mais il s'avère qu'il n'y a pas de spécificité technique de l'ICANN vis-à-vis du candidat qui disent, voilà, vous, pour être bureau d'enregistrement, vous devez remplir telle ou telle caractéristique avec un logiciel qui remplisse telle et telle fonction, qui gère tel et tel protocole. Non, il n'existe rien de la sorte. Au contraire, l'ICANN exige que le candidat explique comment il va fonctionner du point de vue technique en tant que bureau d'enregistrement. Donc, c'est quelque chose d'incroyable. Parce que c'est presque comme si on essayait de recruter, d'acheter une franchise. Mais les spécificités pour remplir ces fonctions ne sont pas là. J'en ai beaucoup parlé avec Rodrigo, je vous en parle aujourd'hui, puisqu'on est un petit peu en famille ici, dans la famille de l'Amérique latine et des Caraïbes. Je ne sais pas si ça a un jour intéressé l'un d'entre vous, ce sujet, mais je crois que les entraves pour entrer dans le système sont considérables et peut-être injustes. Pensez que avec chaque nom de domaine qu'on va vendre, on va gagner $100 et que, bon, si j'arrive à tant de ventes, je vais pouvoir arriver à un chiffre d'affaires de tant. Le cas de GoDaddy au Enon, qui a des millions et des millions d'usagers et de clients, sont en train de vendre avec une facturation de $1 par nom. Donc, lutter contre cela, c'est pratiquement impossible. Entrer en concurrence avec ce type d'acteurs sur le marché, qui domine le marché, c'est pratiquement impossible. Ce que doit faire un bureau d'enregistrement dans notre région, c'est de fournir un service personnalisé à ses clients, avec qui il doit avoir des relations dans sa langue, avec un service en ligne sur un portail. Mais pour pouvoir se lancer dans ces conditions, c'est réellement difficile. Les choses sont vraiment difficiles. Et ça paraissait important d'en parler parce que le groupe de stratégie, justement, travaille là-dessus. C'est pour ça que je voulais aborder cette question. Oui, dit madame, au Brésil, nous n'avons que 3 bureaux d'enregistrement. Les autres qui se sont lancés dans le processus ont abandonné à mi-chemin parce que c'est trop dur ou c'est trop cher. D'autres qui étaient des bureaux d'enregistrement ont cessé de l'être, ont mis un terme à leurs activités parce que ça n'était pas rentable. Rodrigo, au micro, je voulais te remercier d'avoir soulevé cette question parce que ça fait partie intégrante de cette ligne de stratégie que nous avons. Effectivement, ce que vous venez de dire par rapport aux chiffres, 1000 bureaux d'enregistrement et qu'en Amérique latine, on n'en a que 19, mais vous voyez bien l'ampleur des choses, ce qui me permet de promouvoir une séance demain. À l'ICANN, on a fait part de cette préoccupation. Il y a une séance donc qui s'appelle « Soutenir l'industrie du DNS dans les régions sous qui n'ont pas accès ». Donc, on va apporter des idées, des stratégies dans la région pour voir comment l'ICANN peut envisager ce type de soutien. Il est important que en Amérique latine et dans les Caraïbes, on puisse développer ce genre d'industrie et on puisse l'encourager d'ici à l'ICANN. Merci, Tony. Osvaldo, est-ce que tu voulais... Ah non, je vois qu'il y a une question. Oui, Ernesto de NIC Mexique. Pour ajouter une information sur le Mexique, nous n'avons que 3 bureaux d'enregistrement au Mexique. L'un d'entre eux est le nôtre, donc les deux autres... C'est une question effectivement importante, le nombre de bureaux d'enregistrement dans la région. Et aucun d'entre eux ne participe à la réunion. Donc, ils sont en dehors des conversations que les bureaux d'enregistrement peuvent avoir dans leur groupe. Donc, parler de cela aussi. Rodrigo, micro, oui. Alors, la réunion dont je vous parlais, c'est mercredi de 13h30 à 17h dans le salon Canning. Venez, je vous invite à y participer. Oui, très intéressant, dit madame. Je crois que cette question des bureaux d'enregistrement n'est pas encore, Wanda au micro, n'est pas encore résolue à l'ICANN. Il y a beaucoup de discussions, mais ce n'est pas réglé. Par exemple, les bureaux d'enregistrement qui existent au Brésil, ce sont des groupes très forts. Ce sont des journaux, des sociétés de portables qui ont beaucoup de poids, qui ont de gros chiffres d'affaires, mais qui sont des acteurs importants donc dans le pays. Un intervenant dans la salle. Bonjour. Bon, vous êtes tous au courant de ce que fait le GNSO. Actuellement, au Conseil, nous sommes 3 de l'Amérique latine, Gabi, Magali et moi-même. Je crois que ça a été la plus forte présence jusqu'à présent de l'Amérique latine au Conseil. Et je crois qu'on s'en sort plutôt bien pour l'instant. Bien entendu, nous avons nos problèmes en termes de langue parce que la terminologie qu'utilisent les anglophones nous pose problème de temps en temps, mais bon, on essaie de le résoudre. Mais je crois que le GNSO est en train de passer par un moment très intéressant, avec des politiques très importantes à mettre en œuvre. Et comme cela vient d'être dit, il s'agit de voir maintenant quelle est la place du GNSO au sein de l'ICANN par rapport aux à l'affrontement entre le Conseil et le GAC par rapport à la protection des organisations, des organismes internationaux et des acronymes. Mais nous sommes à la disposition également des autres pays, de tous les pays de la région, pour ce dont ils auraient besoin. Gabriel Aslak de l'Institut au micro. Ce que je voulais dire, c'est que on travaille actuellement au GNSO sur tout ce qui a à voir avec l'amélioration de la participation et la diversité des participants au sein des groupes de travail dans la création des politiques. Et à cet égard, également, encourager les membres de la région à participer et sensibiliser les membres de votre région sur le fait qu'il faut participer aux groupes de travail, parce que ce sont ces groupes de travail qui créent les politiques, et tous ces processus de création des politiques font partie intégrante de ce modèle multipartite. Donc, passez ce message dans vos pays. Également, dans la réunion avec le Conseil, on a parlé de la manière de faire en sorte que le travail du GNSO soit plus important et plus de poids dans la région. Donc, faire ce suivi, étant Osvaldo Magali que moi, et on n'est pas les seuls membres au GNSO provenant de pays en développement, mais nous partageons tous ces défis et on essaie de voir comment contribuer dans ce domaine. Merci. Rodrigo, au micro. Tony, tu souhaitais intervenir? Merci, Tony. Tu nous aides comme ça à mieux administrer et gérer notre temps, si tu n'interviens pas. Alors, merci à Osvaldo et Gabi. C'était très intéressant, vos interventions sur les activités d'Amérique latine. En fait, nous sommes peu nombreux. On sait beaucoup mieux ce qui se produit au LACRAL ou au CCNSO, mais pas forcément dans les pays d'Amérique latine. Donc, merci à la présentation qui a été faite sur la situation en Asie. Mais nous avons une personne ici qui va nous parler du TLD-LAC. Alors, Victor About de Point TC au micro. Et maintenant, je parle au nom de l'ACTLD. L'idée, étant donné que nous sommes réunis ici entre latino-américains, c'était vous informer un petit peu sur ce que l'on a fait à l'ACTLD. Nous avons eu un atelier commercial où nous avons couvert des aspects commerciaux à Antigua, au Guatemala. Et ça a été très intéressant parce que pour la première fois, nous avons fait quelque chose qui auparavant était un petit peu interdit, à savoir mélanger les bureaux d'enregistrement avec les TTLD. On les a invités, ces bureaux d'enregistrement, à nous faire part de leur point de vue pour pouvoir le comparer à celui des CCTLD. Ça a été un atelier très enrichissant, aussi bien en termes de participation que d'échange d'informations et d'expériences. Ensuite, il y a eu une rencontre sur la sécurité, la stabilité et la résilience avec les gens de l'ISOC, de l'ACNIC et de l'ICANN. Et ça a eu lieu à Montevideo, ça a été extrêmement intéressant. On a travaillé depuis la réunion de Buenos Aires avec les autres organisations régionales comme APTLD, Center et l'organisation africaine. On a travaillé donc par rapport à la réunion de Net Mondial. On connaît tous l'existence de cette réunion et chacun de son côté a fait son possible pour réunir les quatre organisations qui ont plus ou moins les mêmes objectifs et les mêmes défis pour cette réunion. On a même réussi au sein de l'ICANN qu'il y ait une plus grande reconnaissance des organisations régionales lors de la cérémonie d'ouverture. On a déjà mentionné la participation des groupes régionaux, etc. Donc on est parvenu à une bonne synergie entre les groupes tout en parvenant à une plus grande reconnaissance de l'importance et du rôle, de l'importance du rôle qu'ils jouent. Parce que s'il est vrai que beaucoup d'entre nous participent au CCNSO, c'est mon cas, chacun s'identifie avec sa propre organisation, que ce soit de l'Afrique, de l'Asie-Pacifique ou de des Amériques, comme c'est le cas de nos CCTLD. C'est notre cas à tous, finalement. Par rapport à la question de la gouvernance Internet et par rapport aux dernières évolutions, ça n'est pas une question dont on débat tous les jours. Et on a fait quelque chose de nouveau pour l'ACTLD. On a organisé un webinaire où on a parlé plus spécifiquement de la gouvernance Internet. On l'a organisé en espagnol et en anglais. Et il y a eu une grande participation et de bonnes répercussions. Donc c'est quelque chose qu'on va répéter.
Voilà.
Nous allons utiliser ce format pour des autres organisations et pour faire des problèmes. Et nous allons aussi nous travaillons aussi sur un projet pour tous les CCTLD en Amérique latine. Cela va être un réseau et nous allons commencer notre travail. Nous commençons notre travail, mais cela va être intéressant pour tirer profit de toutes les ressources en Amérique latine. C'est une partie de ce que l'on voulait changer. C'est pas seulement avoir des ateliers de travail et aller à des réunions, mais aussi d'avoir quelque chose de plus tangible, tel que le tirer profit des ressources présentes. Et donc, il y a aussi une union, dis donc, une union des organisations régionales. Nous avions dit qu'aux réunions à Cannes, nous allions avoir des réunions formelles, plus officielles, disons. Les bureaux, les conseils de chaque organisation se sont retrouvés. Nous avons échangé des informations et l'idée, c'est de comprendre ce qui s'est passé et ce qui se passera cette semaine et comment nous pouvons soutenir les uns les autres et comment nous pouvons accomplir un objectif commun dans tout ce que nous avons à définir, disons. Donc, ce serait intéressant de pouvoir accomplir cela. Et depuis Pékin, avant c'était plus ou moins inofficiel. Maintenant, on va faire les choses de façon officielle. Ça fait partie de l'ordre du jour de la Cannes maintenant. Donc, c'est le passé. Donc, on parle du passé, mais maintenant, on va parler du futur proche. Donc, la réunion de Brésil. Wakarina va nous représenter à la réunion du Brésil. Elle n'est pas là, mais elle nous représentera au Brésil. En mai, nous aurons un atelier sur les politiques avec l'ACNIC à Cancun. Une fois par an, nous avons une réunion au même endroit et nous essayons d'avoir une assemblée générale pour les CCTL. C'est ma mise à jour pour vous donner un peu une idée d'où nous en sommes en Amérique latine avec la TLD. Voilà, Rodrigo au micro. J'ai une question. Qu'en pensez-vous que Nick sera prêt, le réseau sera prêt? Nous commençons tout juste, dit l'autre intervenant, Fred du Brésil. Fred du Brésil est à l'avant de cette initiative, est à la tête de cette initiative. Nous essayons de renforcer cette initiative. Nous allons aussi envoyer un rapport pour communiquer au CCTLD et leur dire quel est notre plan. Nous essayons de savoir qui est intéressé à participer. Et pour que nous puissions donner des informations sur ce que nous allons faire. C'est quelque chose qui prend du temps. Mais ça ne va pas prendre beaucoup de temps parce que ce n'est pas difficile du tout. Rodrigo? Oui, merci Victor. Il nous reste deux sujets sur l'ordre du jour. Nous Nous allons faire une pause de 30 secondes pour présenter un nouveau collègue au personnel de la Time qui est quelqu'un qui est colombien. Il est dans notre équipe sécurité. Il était dans le domaine de conformité. Maintenant, il est dans la sécurité. Il va nous aider au sein du groupe aussi. Est-ce que vous voulez faire une présentation rapide? Bonjour à tous. Moi, j'ai mal à la gorge. Carlos Alvarez. Comme Rodrigo l'a dit, pendant 3 ans, je fais partie de l'équipe de la conformité. Maintenant, je suis dans l'équipe de sécurité. Je suis basée au bureau de Los Angeles. Je vais focaliser sur la sécurité, mais pendant les mois à venir, je vais coordonner les départements et les organisations dans la région. Nous allons essayer d'avoir des activités de formation. La moitié de mon travail, c'est de former les agences et les CCTLD au niveau de la sécurité, de la stabilité, de la résilience. C'est du travail qui vous sera disponible. Vous pouvez essayer de me trouver. Mon email, c'est carlos.alvarez@icann.org. Je fais partie du personnel. Je voulais juste me présenter. Je suis à votre disposition. Rodrigo, et maintenant, je voulais juste vous montrer un peu une idée de où nous en sommes au niveau de la stratégie, mais surtout remercier des gens qui sont ici, qui nous ont aidés. Je parle de Fatina. Elle est là avec Dave. Elle s'occupe du groupe de communication qui a fait beaucoup de progrès, comme vous allez le voir. Et les groupes sont là avec Nick Argentina, qui nous ont aidés avec le design préliminaire de la page web pour la région. Je vais vous montrer comment ils font du progrès. Il y a Wanda et Gabi qui sont là, qui sont à la tête de l'espace dans le projet ALAC. Vous avez vu, donc, vous avez pu voir nos activités. Et nous avons en fait plus de 700 suiveurs en espagnol sur Twitter et en portugais 70 et quelques suiveurs. Nous avons aussi publié notre newsletter. Nous allons faire cela 2 fois par mois. Et il y a cette section, c'est juste une page. Cela nous amène à des liens d'information. Il y a une section spéciale sur ce qui se passe au niveau mondial de l'ICANN, afin que les gens dans les régions puissent avoir connaissance des activités différentes. La prochaine publication, nous parlerons de la transition à IANA et de tout ce qui se passe à ce sujet afin que les gens puissent savoir ce qui se passe et dans un langage très simple. Aussi, dans notre région, il y a des liens pour des communiqués de presse et aussi un espace pour les événements. C'est assez simple. Pour que vous puissiez regarder cela très rapidement, nous coordonnons avec notre site web, avec quelqu'un. Nous coordonnons avec les gens qui font le nouveau site ICANN, et afin que nous puissions avoir le même format pour que cela se ressemble. Et nous voulons remercier l'équipe qui s'occupe de design. Donc, c'est un exemplaire. Le contenu va être ajouté alors que nous allons de l'avant. Fatima et les gens de la communication nous aident. Nous avons le roadshow qui est le projet numéro 1. LAC et roadshow parce que nous avons beaucoup d'endroits, beaucoup de lieux. Il y a donc 4 arrêts par année. Et nous l'avons divisé. Non, j'avais oublié de remercier Tony, qui est à la tête de ces groupes avec Andrés, qui vient de partir. Donc, encore une fois, nous avons avoir un arrêt dans les Caraïbes et ensuite dans la région andine et ensuite en Amérique du Sud centrale et au Mexique et ensuite en Amérique du Sud. Et donc, tous les ans, nous pouvons couvrir toutes les régions. Et dans l'avenir, pour futur, dans l'avenir, pour tous ceux qui sont, qui veulent participer, nous pouvons venir nous voir. Nous allons parler de, encore une fois, FutureCom. Je ne sais pas, Eduardo, est-ce que vous êtes, il est encore là? Il a offert son aide. Ils vont avoir un stand à cet événement, à ces événements. Il a offert de nous aider. Je pense que c'est important. Rodrigo, oui, merci beaucoup. En 2015, il y aura aussi des nouvelles. Vous verrez, il y aura une rotation. Nous aurons Trinité et Tobago et ensuite dans les Caraïbes, je pense. Dans Jamaïque, je pense que nous regardons les événements qui sont déjà en place. Et ensuite, nous aurons encore une fois, nous pensons à la Costa Rica, aussi au Chili pour l'Amérique du Sud et peut-être aussi l'Argentine dans l'avenir. Victor a aussi mentionné l'atelier de travail SSR. Nous avons déjà eu une réunion à Montevideo avec toutes les organisations. Nous allons aussi voir les activités à ISOC et toutes les autres activités. Nous avons un calendrier commun. Nous avons fait peut-être ce qui nous manque. C'est la partie résilience. Je vais vous expliquer ce dont il s'agit. Nous avons donc sécurité, stabilité, et c'est là où nous pouvons ajouter des choses pour soutenir les activités déjà en cours. Qu'avons-nous donc dans l'avenir? Nous avons peu d'expérience avec ce genre de projet. Nous avons fait des progrès et ça a été assez bien fait. Il nous reste encore 35 plus de projets de plus et il y a un an et demi pour compléter le plan. Donc nous allons certainement embaucher un manager pour le projet qui travaillera à plein temps. Il ne devra pas informer les gens dans la communauté, les groupes principaux qu'il est en charge des stratégies. Nous devons en parler avec ICANN. Ça fera donc partie de l'ICANN. Je voudrais vous demander, certains d'entre vous veulent peut-être faire des commentaires, peut-être vous pouvez faire cela à travers des courriels. Comment est-ce que nous pouvons inclure toutes ces expériences? Comment pouvons-nous tirer profit de notre temps, surtout dans les régions qui sont tellement loin de nos régions? Pour ceux qui viennent de loin, vous savez que nous avons des opportunités de bourse et d'autres opportunités, mais que faisons-nous? Nous avons ajouté Wanda, Gabi, Celia. Peut-être il y aurait là une autre opportunité de partager avec la région Asie. Ils ne sont pas là pour nous écouter, mais il y a quelqu'un ici qui pourrait partager un commentaire, son opinion. Gabi, oui, j'ai quelque chose à dire. Ce serait bon de voir si l'on pourrait soutenir ces idées dans ces réunions. Nous devrions communiquer nos idées beaucoup plus, même si nous ne sommes pas beaucoup. Nous n'avons pas beaucoup de façon de compter sur beaucoup de personnes. Il y a peu d'entre nous qui viennent à ces réunions. Nous devons tirer profit de notre temps pour qu'il y ait plus d'échanges entre nous, ceux qui sont présents. L'autre intervenant, c'est une idée, c'est positif. Il y avait un document qui avait été envoyé sur les problèmes importants pour cette réunion et les présentations importantes que nous ne devrions pas manquer en tant que région, en tant que groupe. Et je pense qu'il est bon de maintenir cela. C'est Wanda prend la parole. Donc, je pense que l'idée, bien sûr, nous sommes assez loin de notre région. Donc, le nombre de participants est très bas parce qu'il est donc très cher de venir jusqu'ici, etc. Très coûteux. Mais je pense qu'à Londres, nous aurons de la participation de plus des ALS, parce qu'il y aura le sommet Atlas. Donc il y aura une présence plus importante. Nous avons besoin de plus d'idées, de l'aide de ceux d'entre nous qui peuvent penser à ce que l'on pourrait faire et comment nous pouvons tirer profit de la présence de toutes les organisations d'Amérique latine qui seront donc présentes à ce moment-là. Donc, je pense que ce serait peut-être une bonne opportunité de partager, de faire quelque chose de plus pertinent. Nous devons y penser un peu plus. Je pense que toutes les idées que nous avons seront bienvenues. Nous avons au moins 60 personnes. Je pense que c'est 60 organisations à travers le monde. Nous pourrons les inviter. Nous pourrons avoir une sorte d'échange, un échange plus important entre nous, parce que beaucoup de ces organisations sont des organisations à but non lucratif, mais ce sont des organisations qui sont actives, qui en font des affaires et qui ont leur propre domaine. Ce sont donc des organisations commerciales. Ils ont besoin, ils cherchent une solution viable pour leurs actions. Nous devrions tirer profit de ces gens-là. Ils représentent des pays qui ne viennent pas souvent. Ils vont venir à Londres. Ils n'iront pas aux autres réunions. Ils ne viendront pas. Ils n'ont aucune raison de participer. Donc, je pense que ce serait donc très intéressant de faire quelque chose de plus concret pour la région. Ensuite, il y a la réunion de Los Angeles et nous pourrions certainement répéter quelque chose comme ce que nous faisons ici. Peut-être chercher tous les membres de notre région qui seraient intéressés. Donc, nous pouvons penser à ce que nous pourrions faire et focaliser sur le côté commerce en Amérique du Nord et peut-être ce qui est ciblé sur l'Amérique latine. Nous sommes ouverts à de nouvelles idées, donc communiquez avec nous. Si vous pouviez me donner une minute de plus, je voudrais parler NOMCOM. Cette année, nous avons l'opportunité de participer dans une position de leadership à l'ICANN. Vous pouvez faire candidature pour des positions à l'AC. Nous avons notre propre espace pour l'Amérique latine et les Caraïbes. Donc, c'est une opportunité qui se répète tous les 2 ans. Cette année, nous avons l'opportunité et la prochaine sera pour l'Amérique du Nord et pour l'Europe. Donc, si vous voulez, il y a un site web qui est nomcom.icann.org et vous pouvez remplir le formulaire et je vais vous rappeler que je vais vous laisser ma carte de visite avec le nom du site web, mais je veux vous rappeler que la date butoir est le 1er avril. Hein. Ça va être assez rapide. Vous pouvez donc avoir l'accès très rapidement. Si vous avez des difficultés, communiquez avec moi. Je peux vous aider. Je peux vous aider à le faire. Je peux vous parler des avantages, des difficultés, du temps que cela prend. Et pourquoi c'est intéressant, pourquoi ça pourrait être une opportunité de participation plus active. Rodrigo, nous arrivons à la fin de notre session. Fatima, vous vouliez dire quelque chose rapidement? 30 secondes. Fatima, je voulais dire que il y aura 160 organisations, ce sera peut-être pas forcément la bonne approche au niveau commerce, au niveau, au point de vue business, au point de vue affaires. Nous devrions parler de l'industrie DNS. Si nous avons plus de compagnies DNS, nous aurons plus de réglementations gouvernementales et il y aura plus de contrôle. Et nous devrions peut-être demander plus de soutien pour pouvoir créer plus de connaissances dans les pays en voie de développement. Aussi, nous devons nous rappeler que dans cette réunion, At-large aura déjà un ordre du jour et un emploi du temps assez occupé. Donc, essayer de trouver du temps avec eux va être compliqué. Wanda, oui, c'est la réalité pour l'agenda, enfin donc l'ordre, l'emploi du temps de l'agenda de la CAN, c'est toujours difficile. C'est différent de l'emploi du temps de la CAN. On peut le faire, Rodrigo. Oui, je voudrais remercier les interprètes parce qu'ils sont restés plus tard et je voudrais remercier tout le monde pour leur participation. Merci à tous.